Amadjid Belhadj, vous êtes tête de liste pour lutte ouvrière aux élections législatives qui ont lieu donc le 11 et le 18 juin. Et vous êtes également attaché administratif. Et vous avez pour suppléante Béatrice Bouffard, donc infirmière retraitée. Vous êtes pour dans votre programme, hein, une augmentation des salaires, 1 800 euros net. Alors, est-ce que c'est pas un peu utopique?
Utopique, ça dépend pour qui. C'est utopique pour les gens qui sont au RSA, c'est sûr. Que pour eux, c'est des sommes qui leur paraissent quasiment inatteignables. Mais est-ce qu'on peut se résoudre à fonctionner comme ça dans une société où il y a des échelles de rémunération pas possibles, avec des gens qui tirent les bouts de ficelle à partir du 5 du mois? Et voilà, ça, c'est pas possible. Et plus des gens qui maintenant travaillent et sont obligés de vivre dehors ou chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre. Enfin voilà, les 1 800, c'est pas utopique pour qui veut vivre décemment. Voilà.
Pour vous, en quoi lutte ouvrière permet aux électeurs de faire un vote sans ambiguïté?
Sans ambiguïté parce que nous, ce qu'on affirme, c'est qu'il y a un camp, c'est celui des travailleurs. Arlette Laguiller l'a toujours affirmé, Nathalie Arthaud continue. C'est ce qui a été dit pendant la campagne sur les présidentielles. Il n'y a pas d'ambiguïté quant au fait qu'il y a bien deux camps, celui des travailleurs et celui des exploiteurs. Cette minorité de parasites qui vit sur le travail des autres, sur l'exploitation des travailleurs. Et nous, de ce point de vue-là, on ne se situe pas en termes d'arrangement entre amis sur la meilleure façon de gouverner, mais sur le fait que ce qu'il faut mettre en avant aujourd'hui, c'est les luttes des travailleurs pour se défendre. Et pas simplement, je me présente aux législatives ou Nathalie Arthaud présidentielle auparavant pour sauver les travailleurs ou je ne sais quoi encore. C'est les travailleurs qui, par leur lutte eux-mêmes, parviendront à obtenir le minimum décent pour vivre et plus, on l'espère. Voilà.
Alors, il y a beaucoup de listes à gauche hein, ou qui se revendiquent de l'être. Pourquoi ne pas avoir choisi de faire au moins une liste commune avec le Parti communiste, finalement, dans lequel vous êtes plutôt proche, pour mettre toutes les chances de votre côté?
Tout d'abord, par rapport à ce que je viens de dire, le Parti communiste ne défend pas la même idée que nous quant au fait que c'est pas les élections qui vont sauver les travailleurs. Le Parti communiste croit encore qu'il faudra avoir des députés pour aider les travailleurs. C'est regrettable. Et d'ailleurs, ça conduit au fait qu'un certain nombre de travailleurs qui auparavant se tournaient vers lui se posent des questions parce qu'ils se disent « bah oui, mais on a tout essayé, hein, l'union de la gauche, les différentes formules diverses et variées, on nous parle d'unité, mais unité pour faire quoi ? Si c'est juste pour avoir des voix, ça n'a aucun intérêt, on l'a vu. Hollande a eu des voix en 2012, et alors ? Donc nous, ce qu'on dit, ce qui va permettre aux travailleurs aujourd'hui d'obtenir ce qu'ils souhaitent, c'est leur lutte. Et c'est ce programme-là qu'on défend dans les élections. Ce n'est pas un programme de gouvernement. Parce qu'il n'y a aucun gouvernement aujourd'hui qui pourrait aider les travailleurs si les travailleurs eux-mêmes ne mettent pas en avant leurs revendications.
En parlant d'argent public, vous dites qu'il doit aller au service public, utile à la population, éducation, santé, transport public, la culture, l'environnement.
Bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Mais quoi ? C'est-à-dire le gouvernement qui lui-même met des pseudo-moyens dans l'environnement ? On en est où ? Les différents accords divers et variés concernant la pollution, on en a même été à se revendre des droits à pollution entre les différentes entreprises. Cette société marche sur la tête, on le sait très bien. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut commencer par en terminer avec ce système-là, tant qu'il y aura une minorité qui n'aura comme intérêt en tête que ses profits, ces questions comme celle de la pollution ne pourront jamais être résolues.
Dans La Voix du Nord, hein, de mercredi 31 mai, hein, pour resituer, vous dites que vous souhaiteriez des États-Unis socialistes d'Europe. Qu'entendez-vous par là?
Oui, je remercie ces journalistes de La Voix du Nord qui a voulu mettre en avant. On nous a parlé de l'Europe, on m'a posé la question, est-ce que vous êtes européen? J'ai dit, nous sommes pour les États-Unis socialistes d'Europe, c'est-à-dire que très clairement, on pense que lorsqu'on aura réussi à mettre par terre ce système capitaliste, ce qu'il faudra, c'est que les États, les différents pays qui ont choisi d'en finir avec ce système, constituent une fédération ensemble, et effectivement à l'échelle européenne au minimum, voire à l'échelle planétaire d'ailleurs.
Est-ce que les chômeurs et les retraités, et les inactifs plus précisément aujourd'hui, peuvent se retrouver dans le camp des travailleurs?
Bien sûr, ce sont des travailleurs par définition. S'ils ne le sont pas, c'est soit parce qu'ils l'étaient auparavant pour ce qui concerne les retraités, soit tout simplement parce que les patrons ne veulent pas les embaucher en ce qui concerne les chômeurs. Il y a bien une aspiration à devenir des travailleurs. C'est quoi? C'est les gens qui n'ont que leur force de travail à vendre. C'est ça, les travailleurs. Voilà. Et ceux qui font tourner la société. Et c'est bien dans ce camp-là qu'on se situe.
En ce qui concerne la réforme de la loi de travail, les syndicats donc ont rencontré déjà le président Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ces syndicats? Qu'est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose? On s'attend à d'autres séries de manifestations, selon vous?
Tout d'abord, ce à quoi faut s'attendre de la part du gouvernement, on le sait. Macron a annoncé la couleur. Il a dit qu'il prendrait un certain nombre de mesures, voire par ordonnance, dans la continuité de la loi El Khomri, dont il est partie prenante à l'origine d'ailleurs. Donc de ce point de vue-là, je pense que les dirigeants syndicaux ne doivent pas s'attendre à grand-chose de la part de ce gouvernement. Et donc nous, ce qu'on croit, c'est que dès aujourd'hui, les directions syndicales devraient se tourner vers les travailleurs pour mener une campagne d'information sur ce que sont réellement les mesures que va prendre ce gouvernement pour mettre en place un dispositif de défense des travailleurs, de mobilisation dans l'objectif effectivement de manifestations et de grèves futures, tout à fait.
Vous dites aussi également dans votre programme qu'il faut affirmer ses intérêts contre ceux du grand patronat. Comment comptez-vous mettre ça en place? Qu'est-ce que vous proposez exactement?
Défendre ses intérêts contre ceux du grand patronat, ça veut dire clairement qu'il faut interdire les licenciements, très concrètement, voilà, les interdire. Pas juste admettre que parce que c'est la crise, il faudrait serrer la ceinture, etc. Non, on le voit bien, le commerce de luxe n'a jamais aussi bien marché. Les profits, le CAC 40, 76 milliards minimum l'an dernier, une hausse minimale de 11 à 18% des profits, enfin voilà. De ce côté-là, tout va bien. Donc si tout va bien pour eux, on pense que le gâteau devrait être partagé.
Qu'est-ce que vous proposez comme alternative? Est-ce que tous les licenciements sont complètement interdits?
Nous, on nous parle de mesures d'urgence. L'interdiction des licenciements, c'est une mesure d'urgence pour sauver les travailleurs. Les travailleurs ont besoin de vivre aujourd'hui. Ils ont besoin d'un salaire. On nous parle de sauver l'économie, mais et les travailleurs, quand est-ce qu'on va les sauver, eux? Est-ce qu'il faut qu'ils crèvent, soi-disant, pour sauver les profits? Ça ne veut rien dire. De quoi parle-t-on? Il faudrait augmenter la productivité, mais pourquoi faire? Si ce n'est pas pour donner à manger aux gens, un logement décent, etc., ça n'a aucun sens. Donc nous, on est pour, effectivement, interdire l'ensemble des licenciements. On ne discutaille pas sur tel point de détail, etc. Quand un patron licencie massivement des milliers de travailleurs, il ne discute pas sur les points de détail. Ben, nous non plus.
Alors je vais vous faire écouter un micro-trottoir qu'on a réalisé dans les rues d'Arras pour demander aux gens simplement ce qu'ils pensaient des législatives. La question qu'on leur a posée également, qu'est-ce qu'ils attendaient justement d'un député? Vous pourrez réagir donc juste après.
Qu'est-ce que vous pensez des législatives?
Ça dépend des candidats qui se présentent. Je ne dirais pas pour qui je vais voter, mais bon.
Qu'attendez-vous d'un député?
Qu'il fasse déjà quelque chose pour sa ville, pour les handicapés, pour les personnes âgées. Enfin, ces choses-là, les choses les plus importantes. Bon, il y a des priorités, ces priorités doivent passer avant de faire des travaux dans une ville. On commence par le début et on finit par la fin, ce que je trouve logique, parce que au niveau des handicapés, il manque considérablement de structures. À Arras, c'est pour ça que les familles s'en vont en Belgique. Hein. Donc il faudrait faire quelque chose là-dessus pour les handicapés qui puissent rester dans la région.
Si je dois donner un avis sur les législatives, c'est que on est un petit peu circonspect quand on est interviewé ou éventuellement lorsqu'on a une impression à émettre, pour une bonne et simple raison, c'est que tout est totalement différent, tout est toujours remis en question, et qu'aujourd'hui, malheureusement, je suis un peu comme tous les Français de base, à savoir qu'on n'est pas convaincu de ce que nous disent les hommes politiques, et sur le fief d'Arras particulièrement, on reste encore un petit peu circonspect quant aux élections. Voilà.
Bon, je retiens surtout la première intervention. Je pense que ce monsieur, vraiment, il dit ce qu'il... C'est ce que vivent les gens, quoi. Je veux dire, il parle en particulier des handicapés, mais on pourrait évoquer le problème des gens qui sont au RSA, qui ont l'allocation de solidarité, etc. Oui, il y aurait de quoi faire si on employait de manière décente les moyens publics, alors pour aider les handicapés entre autres, mais l'ensemble de la population à vivre décemment. Les quartiers, je vais assez régulièrement dans les quartiers des Blancs-Monts, etc. On voit bien que dans ces quartiers-là, il y aurait de quoi, si on voulait mettre de l'argent public pour les faire vivre et que les gens vivent dans des conditions décentes, il y aurait de quoi faire et on pourrait du coup donner du travail à des gens pour faire tout ça. Voilà. Quant à ce dernier monsieur qui parle des hésitations politiques des gens, ben oui, c'est terrible parce qu'on a réussi à dégoûter les gens de la politique. alors que nous, on pense que les travailleurs devraient faire eux-mêmes de la politique et plutôt que de la déléguer à des politiciens qui, effectivement, se moquent d'eux, bien sûr.
Si vous n'êtes pas qualifié pour le deuxième tour, est-ce que vous comptez donner des consignes, faire des reports de voix ?
A priori, non, soyons clairs. Nous, on n'est pas dans cette perspective-là. On est dans la perspective aujourd'hui de faire entendre le camp des travailleurs. Qui fait entendre le camp des travailleurs aujourd'hui ? On ne nous parle pas de ça. Au mieux, on nous parle du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Clairement, on ne pose pas cette question de cette minorité qui accapare des profits et à qui il faut s'en prendre. Donc voilà. Si au deuxième tour, il y a quelqu'un qui miraculeusement se met à dire ce que nous sommes en train de dire, bah, on verra. Mais à ce jour, je n'ai pas entendu grand monde se prononcer à ce propos.